Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la foi, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de comprendre les Écritures et de percer les méandres de notre vie spirituelle. Depuis Léon XIII, les papes n'ont cessé d'appeler à travailler à la paix par des moyens non violents. Des chrétiens se sont ainsi engagés, notamment dans le mouvement Pax Christi. Mais la non-violence est encore souvent perçue comme de la naïveté. Pourtant, l'Évangile déclare « heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu », c'est-à-dire qu'ils seront identifiés à Jésus. L'Église est-elle pacifiste? C'est la question que je pose au père Christian Mellon, jésuite qui a consacré sa vie à la non-violence. Bonjour père.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pacifisme et non-violence, est-ce la même chose?
Alors, pas du tout, non, franchement, je n'aime pas beaucoup le mot pacifisme, pour des raisons historiques d'abord, parce qu'il évoque l'attitude de ce qu'on appelait de Munich, c'est-à-dire préférer Hitler pour éviter la guerre, puis finalement on a eu à la fois Hitler et la guerre. Non, et puis c'est pas du tout la tradition chrétienne c'est la non-violence, enfin la tradition évangélique. Dire c'est la non-violence. Alors, je ne veux pas non plus me faire des ennemis parmi ceux qui se reconnaissent dans le mot pacifiste. Après tout, pourquoi pas, mais il faut se mettre d'accord sur ce que ça veut dire. Si ça veut dire que tout vaut mieux plutôt que le recours à la violence, non, ce n'est pas la position de l'Église. Bien sûr, il faut faire tout ce qu'on peut pour éviter de recourir à la violence, mais quand on se trouve devant un Hitler ou aujourd'hui un Poutine, s'il veut bien revenir à la justice et cesser son agression, je serai le premier à m'en réjouir. S'il y a des choses qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là, bien sûr qu'il faut les faire. Pour le moment, je vois pas trop quoi. Mais en tout cas, la paix pour un chrétien n'est jamais, pour un lecteur de la Bible, ne peut pas être séparée de la justice. Autrement dit, une grave injustice, alors évidemment pas n'importe quelle petite injustice légère, mais une grave injustice exige qu'on prenne les moyens pour la faire cesser. Et cela, ça peut faire entrer en conflit. Alors, pour poursuivre un peu le vocabulaire, justement, c'est le mot conflit peut-être qui... beaucoup de personnes identifient le conflit et la violence. Non, le conflit n'est pas forcément violent. La vie sociale, la vie politique, la vie économique est pleine de conflits, mais ça ne va pas forcément jusqu'à la violence. Je crois que c'est très important de distinguer le conflit et la violence, parce que ce que Jésus refuse, ce n'est justement pas le conflit. Il a passé sa vie en conflit, et même il le suscitait parfois. Toutes ces controverses avec les scribes et les pharisiens. Il dit même qu'à cause de lui, il y aura encore davantage de conflits qu'avant. Hein. C'est le sens de cette fameuse phrase pour laquelle on est parfois un peu désarçonné. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, c'est-à-dire, à cause de ma présence, il va y avoir des conflits, parce qu'on aura pour ennemis des gens de sa propre maison, selon qu'on prend parti ou pas pour le royaume de Dieu. Donc, le conflit est une réalité incontournable. Ce qui ne va pas, c'est quand le conflit devient violent. Alors, malheureusement, ça peut arriver certaines fois, mais normalement, une vie sociale, une vie politique bien, bien régulée a des instances pour régler les conflits sans qu'on en vienne à la violence.
Pour en revenir, vous disiez le fondement évangélique de la non-violence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi Jésus est-il un non-violent?
C'est-à-dire que Jésus est en conflit avec les autorités de son temps, les autorités politiques, religieuses, mais à aucun moment il ne fait contre eux usage de force, de violence physique, ni même de violence morale, c'est-à-dire il ne va pas les déconsidérer, il ne va pas les humilier. Le grand exemple pour moi, c'est l'épisode de la femme adultère au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Il a trouvé un moyen, une phrase géniale pour sauver la vie de cette femme, hein, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et puis, il se remet à écrire sur le sol. C'est-à-dire, il baisse la tête, il ne les regarde pas. Supposons qu'il soit resté là, à les regarder tous, les toiser, en disant « Alors, qui c'est qui va s'en aller le premier ?» Tout ça. Peut-être que, finalement, ils auraient lapidé la femme. Là, il a en respectant leur dignité, il les a vaincus par la parole. Ça, il est le vainqueur. Hein, la femme va être sauvée. Ça, il n'y a pas de doute. On ne fait pas moitié-moitié. Hein, il y a vraiment une victoire de Jésus, une victoire de la vie, une victoire sur ceux qui voulaient lapider cette femme. Mais en même temps, il ne les humilie pas. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental dans toutes les stratégies non-violentes. Il faut de la force, et parfois, alors de la force par des moyens non violents que nous ont illustré les luttes de Gandhi, King et tant d'autres qu'on connaît moins, Solidarność, enfin, ça ce serait l'objet d'une autre émission, l'arsenal des moyens non violents de force, hein, de force, pas de violence, il ne faut pas confondre force et violence, bien sûr. Donc, voilà, Jésus a mis toute la force de sa conviction et de sa parole dans cette phrase qui sauve la femme adultère, mais il n'en profite pas pour les humilier. Voilà. Et c'est pour ça que finalement, ils s'en vont les uns après les autres, en commençant par les plus vieux, dit l'Évangile, avec un peu d'humour, et la femme est sauvée. Voilà. Ça c'est typiquement une attitude, je trouve, non violente de Jésus.
Alors l'Église, si je vous comprends bien, l'Église nous invite à œuvrer avec des moyens non violents. Elle nous invite quand même, effectivement, à oser rentrer dans les conflits. C'est-à-dire, être non violent, c'est pas juste dire « ça ne me regarde pas ».
C'est tellement évident, il n'y a qu'à regarder l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui connaissent rien à la non-violence, mais au moins, ils connaissent deux noms en général. Ils connaissent Gandhi et Luther King. Tous les deux ont été assassinés, tous les deux ont passé leur vie à lutter. Ils ont passé du temps en prison, et les gens continuent à croire que la non-violence, ça consiste à être bisounours et à... Non, c'est un contresens historique, tout simplement historique. Non, la non-violence, l'action non-violente, ça consiste à agir par des moyens qui respectent l'adversaire, mais à agir et dans des luttes. Hein, le combat non-violent est absolument indispensable.
Est-ce qu'on peut dire que finalement, ce combat non-violent, en tout cas dans l'Évangile, il se termine à la Passion ?
On peut dire, alors là c'est un peu d'un autre ordre, bien sûr, mais là la notion qu'il faut faire venir, c'est celle d'ennemi. C'est-à-dire que le combat n'est pas simplement le combat à fleur et moucheté, c'est une question de vie ou de mort à certains moments. Et dans le cas de Jésus, avec ses adversaires, évidemment, il va être tué, il va en mourir. Mais je crois que là encore, n'oublions pas que la parole centrale de l'Évangile sur ces questions-là, c'est pas « n'ayez pas d'ennemis, mais aimez vos ennemis ». Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Jésus a dit « n'ayez pas d'ennemis ». Pas du tout. Il a dit « aimez vos ennemis ». Et pour les aimer, il faut en avoir. Bon. Et jusque sur la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, jusque sur la croix, il va avoir cette attitude de pardon. Il est tué par des ennemis. Alors, il ne dit pas non plus « faites-vous des ennemis ». Il dit simplement « si vous êtes fidèle à ma parole, si vous menez les combats pour la justice et la dignité humaine, vous aurez des ennemis, vous n'avez pas à vous en faire, vous les aurez. Ne cherchez pas à les susciter, vous en aurez. Et c'est cela que vous devez aimer. » Alors, évidemment, aimer, ça ne veut pas dire éprouver pour eux des sentiments d'affection. Hein. Le verbe aimer, à ce moment-là, a un sens très concret, c'est-à-dire les respecter en tant qu'être humain et susceptible de se convertir, susceptible d'adopter d'autres attitudes et aimer de Dieu le Père, quoi qu'il fasse. Quoi. C'est ça qui est difficile à croire, mais tout homme, le plus grand criminel, est aimé de Dieu et invité à la conversion, bien sûr. Et c'est pour ça que tous doivent être aimés. Mais tout le paradoxe d'action non-violente, c'est que tout en les aimant, il faut les empêcher de nuire. S'ils sont ennemis, c'est parce qu'ils sont adversaires de la dignité humaine, de la justice, de l'égalité, ou du droit international, ou adversaires de la paix. Et donc, il importe de les empêcher de nuire, bien sûr, par des moyens non-violents, chaque fois que c'est possible, et hélas, malheureusement, dans certains cas, par des moyens violents, comme on le voit en ce moment en Ukraine.
Alors, comment vous avez eu une vie quand même consacrée à la non-violence,
Disons que la non-violence a tenu une place dans ma vie. Mais enfin, elle est consacrée d'abord à ma vocation de religieux jésuite, avec toutes les tâches qui m'ont été confiées et qui n'ont pas toutes été dans le domaine de la non-violence, bien sûr. Mais oui, oui.
Et alors, comment on fait, à quoi cela nous invite, vous diriez, au quotidien? Enfin voilà, parce qu'on n'est pas tous à pouvoir aller négocier des traités de paix, on va dire.
Oui.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, chacun?
Moi, je crois qu'il faut d'abord se former. Parce que beaucoup de gens croient que pour faire la paix, lutter de manière non violente, il suffit d'aimer la paix puis et d'avoir du respect pour les... Non, il y a des techniques. Et ce qu'il y a de formidable depuis, disons, une vingtaine d'années, c'est l'essor considérable des sessions de formation. Il y a des mouvements qui sont spécialisés pour former avec des sessions, voilà. Comment se conduire en situation de conflit, en situation de stress, en situation d'agression, comment se conduire, comment continuer à respecter les consignes de non-violence alors qu'on est soi-même menacé, etc. Enfin, ça ne s'apprend pas. Enfin, si, pardon, ça ne s'improvise pas. Et donc, ça s'apprend. Donc, il y a des sessions, là, on pourra vous donner des...
À la communication non-violente,
voilà.
Par exemple,
alors,
des
ensuite,
choses comme
ça. Il y a la communication non-violente qui a pris beaucoup d'ampleur, je dirais, là encore, depuis une vingtaine d'années. Voilà, les thèses de Marshall Rosenberg, etc. Et puis, il y a aussi, alors, faire jouer son bon sens et aussi au quotidien pour les petits conflits, etc. Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des sessions de 8 jours pour faire la paix entre deux camarades de classe ou à l'intérieur d'une famille, etc. Il y a différents niveaux.
Un grand merci, Père Christian Mellon, pour cet éclairage. Donc, je retiens que vous nous invitez à œuvrer, en tout cas, de manière non violente, au jour le jour, et à être des artisans de paix, comme Jésus l'a été. Et quant à moi, je vous remercie d'être fidèle à 1000 questions à la fois, l'émission en partenariat avec La Croix Croire. À la semaine prochaine.
Merci Florence Châtel, 1000 questions à la fois, c'est tous les samedis sur Radio Notre-Dame et RCF. Dans quelques minutes, l'invité culture en prendra la direction de Bordeaux pour une magnifique exposition de peinture.